21. La grande ourse lui servit de guide pendant moins de 30 secondes. Dès que Luc pénétra dans les bois, elle disparut. Il s'arrêta. Il apercevait encore une partie de l'institut à travers l'entrelac des premières branches. « Moins de 2 kilomètres, se dit-il, et tu devrais trouver ce que tu cherches, même si tu dérives un peu de ta trajectoire, car c'est gros, avait dit Maureen à Avery. Relativement gros, du moins. Avance lentement. Tu es droitier, ça veut dire que c'est ton côté dominant. Alors essaie de compenser, mais pas trop, ou tu risques de partir trop vers la gauche. Et n'arrête pas de compter. Un mile, ça représentait entre 2000 et 2500 pas. Grosso modo, en fonction du terrain. Et fais attention de ne pas t'éborgner avec une branche. Tu es déjà assez amoché comme ça. » Luc se remit en marche. Au moins, il n'y avait pas de fourré à traverser, car les arbres, très anciens, créaient de l'ombre et formaient un tapis d'aiguilles qui les empêchait de se développer. Chaque fois qu'il devait contourner un de ces arbres centenaires, des pins probablement, mais comment en être sûr dans le noir, il devait se réorienter et reprendre une trajectoire rectiligne, largement hypothétique désormais. Autant essayer de trouver son chemin dans une immense pièce remplie d'objets à peine visibles. Quelque chose sur sa gauche émit un grognement et détala, brisant une branche et en faisant trembler plusieurs autres. Luc, le petit citadin, se figea. Était-ce un cerf? Oh bon sang, et si c'était un ours? Un cerf s'enfuirait, mais un ours aurait peut-être envie de s'offrir un encas nocturne. Peut-être allait-il foncer sur lui, attiré par l'odeur du sang? Luc savait que son cou et son épaule droite en étaient inondés. Mais le bruit disparut. Il n'entendait plus que les grillons et parfois le hou-hou de la chouette. Il en était à 800 pas quand cette chose inconnue l'avait arrêté. Il recommença à avancer, les mains tendues devant lui tel un aveugle, en comptant les pas dans sa tête. 1000, 1200. Un arbre, gigantesque. Les premières branches sont bien plus hautes que ma tête. Invisible. Fais le tour. 1400. 1005. Il trébucha sur un tronc abattu et s'affala. Quelque chose, un morceau de branche, s'enfonça dans le haut de sa cuisse gauche, lui arrachant un cri de douleur. Il demeura allongé un instant pour reprendre son souffle, regrettant, comble de l'ironie, sa chambre à l'institut. Une chambre où il y avait une place pour chaque chose, où chaque chose était à sa place, où aucun animal de taille indéterminée ne fonçait entre les arbres. Un endroit sûr. Ouais. Jusqu'à ce qu'il cesse de l'être, murmura-t-il. Il se releva en frottant à travers la nouvelle déchirure de son jean, la nouvelle déchirure de sa peau. Au moins ils n'ont pas de chien, se dit-il en repensant à ce vieux film en noir et blanc, dans lequel deux détenus enchaînés l'un à l'autre tentaient de s'enfuir, poursuivis par des chiens qui aboyaient sur leurs talons. Par-dessus le marché, ces deux gars devaient traverser des marais, peuplés d'alligators. Il entendit Kalisha. « Tu vois, Lucky? Tout va bien. Continue à avancer, en ligne droite, autant que possible. » Arrivé à 2000 pas, Luc commença à chercher des lumières droit devant à travers les arbres. « Il y en a toujours quelques-unes, » avait dit Maureen à Avery. « Mais la lumière jaune est la plus éclatante. » À 2500 pas, il sentit naître l'inquiétude. À 3500 pas, il comprit qu'il avait dérivé, et pas qu'un peu. « C'est à cause de cet arbre qui m'a fait trébucher, » se dit-il. « Cette saleté d'arbre. J'ai dû me tromper de direction en me relevant. Si ça se trouve, je marche vers le Canada. Et si les types de l'Institut ne me trouvent pas, je mourrai dans ces bois. » Mais comme il ne pouvait pas faire demi-tour, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu revenir sur ses pas. Luc continua à avancer en agitant les mains devant lui pour repousser les branches susceptibles de lui infliger de nouvelles blessures. Son oreille l'élançait. Il avait cessé de compter ses pas, mais il devait avoisiner les 5000, au moins 3 kilomètres, quand il aperçut une faible lumière jaune-orangée à travers les arbres. Luc crut tout d'abord qu'il s'agissait d'une hallucination ou d'un des points, bientôt rejoint par une multitude d'autres. Une douzaine de pas supplémentaires mirent un terme à ses craintes. La lumière orangée, plus vive maintenant, était flanquée de deux autres, beaucoup plus faibles. Des lampes électriques, certainement. La plus éclatante devait être une lampe à vapeur de sodium, comme sur les grands parkings. Le père de Rolf leur avait expliqué, un soir où il avait conduit Luke et Rolf au multiplex de Southdale, que ces éclairages étaient censés lutter contre les agressions et les vols de voitures. Luke réprima une forte envie de se précipiter vers cette lumière. Il ne voulait surtout pas trébucher sur un autre tronc couché ou marcher dans un trou et se casser la jambe. D'autres lumières apparaissaient maintenant, mais il gardait les yeux fixés sur la première. Si la grande ourse n'avait pas servi longtemps, il avait trouvé une autre étoile pour le guider, plus sûr. 10 minutes après l'avoir repéré, il atteignit la fin de la forêt. Au-delà d'une cinquantaine de mètres de terrain dégagé, se dressait un grillage surmonté de fils de fer barbelés, éclairé par des lampadaires disposés tous les 10 mètres environ. « Muni de détecteurs de mouvement », avait précisé Maureen à Avery. « Dis à Luke de rester à l'écart. » Conseil superflu. Derrière ce grillage, il y avait des petites maisons, très petites. « Même pas assez grandes pour se retourner », aurait dit son père. Elles comportaient 3 pièces au maximum, plus certainement 2, et étaient toutes identiques. Avery disait que Maureen appelait ça le village, mais aux yeux de Luke, ça ressemblait plutôt à une caserne de l'armée. Les maisons étaient réparties par blocs de 4 autour d'un carré d'herbe. Des lumières étaient allumées dans certaines maisons, sans doute pour que leurs occupants ne se prennent pas les pieds dans un obstacle s'ils se rendaient aux toilettes en pleine nuit. La rue unique s'achevait devant un bâtiment plus grand que les autres. De chaque côté, un petit parking accueillait des voitures et des camionnettes garées à touche-touche. 30 ou 40 véhicules, estima Luke. Il se souvint de s'être demandé où les employés de l'Institut laissaient leurs voitures. Maintenant, il savait. Même si le mode d'acheminement des provisions demeurait un mystère. Le lampadaire à vapeur de sodium était installé devant le grand bâtiment et il éclairait 2 pompes à essence. Luke devina qu'il s'agissait d'une sorte de grande surface, version institut. Il comprenait un peu mieux maintenant. Les employés avaient droit à des jours de congé. Maureen avait disposé d'une semaine pour retourner dans le Vermont. Mais généralement, il restait ici. Et quand il n'était pas en service, il vivait dans ses maisons rikiki. Leurs horaires de travail devaient être conçus afin qu'ils puissent partager leur logement. Quand ils avaient besoin de se distraire, ils sautaient dans leur véhicule personnel pour se rendre à la ville la plus proche, Denison Riverbend en l'occurrence. Les habitants du coin se demandaient certainement ce que faisaient ces hommes et ces femmes là-bas dans les bois. Ils devaient poser des questions, et sans doute que les gens de l'Institut avaient mis au point une couverture. Laquelle ? Luke n'en avait pas la moindre idée, et à cet instant, c'était le dernier de ses soucis. Cependant, elle devait être convaincante pour avoir tenu pendant tant d'années. Longe le grillage. Cherche une écharpe. Luke repartit, le grillage et le village sur sa gauche, les bois sur sa droite. Une fois encore, il dut réprimer l'envie de se dépêcher, surtout maintenant qu'il voyait un peu mieux. Le temps passé avec Maureen avait été nécessairement limité pour éviter que leurs palabres attirent l'attention, mais aussi parce que Luke craignait qu'Avery ne les trahisse en se pinçant le nez de manière trop ostentatoire. Résultat, il ignorait où se trouvait cette écharpe et il avait peur de passer à côté. Il s'inquiétait sans raison. Maureen l'avait attachée à la branche basse d'un grand pin, à l'endroit où le grillage tournait à angle droit pour s'éloigner des bois. Luke la détacha et la noua autour de sa taille. Il ne voulait pas laisser un indice aussi flagrant à ceux qui n'allaient pas tarder à le pourchasser. D'ailleurs, se demanda-t-il, combien de temps s'écoulerait-il avant que Madame Sixby et Stackhouse découvrent sa disparition et comprennent qui l'avait aidé à s'enfuir? Pas très longtemps, sans doute. Avouez tout, Maureen. Ne les obligez pas à vous torturer, car si vous essayez de leur cacher la vérité, c'est ce qu'ils feront, et vous êtes trop âgé, trop malade pour supporter le caisson. La lumière éclatante devant le bâtiment, qui était peut-être un économa, se trouvait loin derrière maintenant. Luke dut scruter attentivement les environs avant de trouver l'ancienne route qui s'enfonçait dans la forêt et qui avait peut-être été utilisée par des bûcherons une génération plus tôt. L'entrée était masquée par un épais bosquet de myrtilles. Malgré son désir de presser le pas, Luke s'arrêta le temps d'en cueillir une double poignée qu'il goba. Elles étaient sucrées, délicieuses. Elles avaient le goût du dehors. Quand il eut déniché l'ancien chemin, il n'eut aucun mal à le suivre, même dans l'obscurité. Une épaisse végétation avait envahi les bas-côtés érodés, et une double bande de mauvaises herbes tapissait les ornières creusées autrefois par les roues des véhicules. Il fallait enjamber des branches abattues, mais impossible de retourner dans la forêt par erreur. Il essaya de recommencer à compter ses pas et réussit à s'y tenir, plus ou moins, jusqu'à 4000, avant de renoncer. Parfois, le chemin remontait, mais dans l'ensemble, il descendait. À deux reprises, il tomba sur des amas d'arbres abattus et de fourrés, et plus loin, sur un entrelac de buissons si épais qu'il craignit que le chemin s'arrête là. Mais ayant réussi à traverser cet obstacle, il constata qu'il se poursuivait de l'autre côté. Il n'aurait su dire combien de temps s'était écoulé. Une heure, peut-être. Deux, plus certainement. Une seule certitude, il faisait encore nuit. Et même si c'était effrayant d'évoluer dans cette obscurité, surtout pour un gamin de la ville, il espérait qu'elle allait durer encore longtemps. Tout en sachant qu'à cette époque de l'année, les premières lueurs du jour apparaîtraient dans le ciel dès 4 heures du matin. Arrivé au sommet d'une nouvelle montée, il s'arrêta un moment pour se reposer, en demeurant debout. Il ne pensait pas vraiment qu'il s'endormirait s'il s'asseyait, mais cette simple perspective l'effrayait. L'adrénaline qui lui avait donné l'énergie de creuser la terre et de se faufiler sous le grillage, puis de marcher à travers bois jusqu'au village, s'était tarie. Et même si ses égratignures dans le dos et au mollet, sa plaie à l'oreille ne saignait plus, elle les lançait encore, surtout l'oreille. Il la toucha délicatement et retira vivement ses doigts en laissant échapper un sifflement de douleur, dents serrées. Néanmoins, il eut le temps de sentir un caillot de sang. « Je me suis mutilé, » pensa-t-il. « Mon lobe ne repoussera jamais. » « À cause de ces salopards, » se dit-il. « C'est eux qui m'ont forcé à faire ça. » N'osant pas s'asseoir, il se pencha en avant, les mains sur les genoux, une position dans laquelle il avait souvent vu Maureen. Elle n'atténua nullement la douleur des éraflures dans son dos ou sur son mollet, ni celle de son oreille tranchée, mais soulagea légèrement ses muscles fatigués. Il se redressa, prêt à repartir, puis s'arrêta. Un bruit discret lui parvenait, droit devant. Une sorte de bruissement rapide, comme le vent dans les pins, mais il n'y avait pas le moindre souffle d'air au sommet de cette petite montée. « Faites que ce ne soit pas une hallucination, » se dit-il. « Faites que ce soit vrai. » Encore 500 pas, cela, il les compta, et Luc découvrit que ce bruit était celui de l'eau qui coule. Le chemin s'élargit et devint de plus en plus raide, jusqu'à ce qu'il soit obligé de progresser de biais, en s'accrochant aux branches des arbres pour ne pas tomber à la renverse. Il s'arrêta lorsqu'il n'y eut plus aucun arbre, ni d'un côté ni de l'autre. Ici, la forêt avait été décimée, donnant naissance à une clairière désormais envahie de buissons. En contrebas et au-delà, courait une large bande de soie noire, suffisamment lisse pour refléter les ondulations du ciel étoilé. Il imaginait les bûcherons d'autrefois, des hommes qui travaillaient peut-être dans ces forêts du Nord avant la Seconde Guerre mondiale, conduisant des vieux camions Ford ou International Harvester, voire des équipages de chevaux pour transporter les troncs coupés. Cette clairière leur servait de rond-point. C'était là qu'ils déchargeaient les billes de bois pour les faire glisser jusqu'à la Denison River, où débutait leur voyage vers les différentes scieries. Luc descendit l'ultime pente sur des jambes tremblantes et endolories. Les 200 derniers pas étaient les plus raides. Longtemps auparavant, le chemin avait été profondément creusé par le passage de ces innombrables troncs. Il s'assit et se laissa glisser en se retenant au buisson pour ralentir un peu sa descente, et il s'arrêta finalement de manière brutale sur une rive rocailleuse, à 1 mètre environ de l'eau. Là, comme promis par Maureen, l'avant d'une vieille barque esquilleuse pointait sous une bâche verte constellée d'aiguilles de pin. Elle était amarrée à une souche déchiquetée. Comment Maureen connaissait-elle l'existence de cet endroit? Par où y dire? Cela semblait peu probable, alors que la vie d'un jeune garçon pouvait dépendre de cette embarcation délabrée. Peut-être l'avait-elle découvert lors d'une promenade solitaire avant de tomber malade. Ou bien peut-être qu'avec d'autres personnes de l'Institut, 2 ou 3 cantinières qui semblaient sympathiques, elles quittaient leur village caserne pour venir pique-niquer ici, sandwich et coca ou bouteille de vin, peu importe. La barque était là. Luc avança dans l'eau jusqu'à mi-mollet, il se pencha pour en recueillir dans ses paumes jointes et s'en abreuver. Elle était froide et paraissait plus sucrée encore que les myrtilles. Ayant étanché sa soif, il essaya de détacher la barque amarrée à la souche, mais les nœuds étaient complexes et le temps passait. Finalement, il utilisa le couteau afin de sectionner la corde, ce qui eut pour effet immédiat de refaire saigner sa paume droite. Pire, la barque se mit à dériver. Il bondit, la rattrapa de justesse et la tira vers la berge. Ses deux paumes saignaient maintenant. Il essaya d'arracher la bâche, mais dès qu'il lâchait la barque, le courant l'emportait. Il se maudit de ne pas avoir commencé par là. Finalement, il opta pour l'unique solution. Il hissa son buste par-dessus bord, sous la vieille bâche qui empestait le poisson, puis agrippa le banc du milieu et tira, jusqu'à se retrouver entièrement à l'intérieur de la barque. Il retomba dans une flaque d'eau sur une chose longue et anguleuse. L'embarcation fut entraînée vers l'aval par le courant léger, dans le mauvais sens. « Je vis une vraie aventure, » songea Luc. « Oui, une sacrée aventure. » Il se redressa en position assise, sous la bâche, qui se souleva dans une terrible puanteur. Il la repoussa avec ses mains ensanglantées jusqu'à ce qu'elle bascule par-dessus bord. Elle flotta un instant avant de couler. La chose inconfortable sur laquelle il avait chu était une rame. Contrairement à la barque, elle paraissait relativement neuve. Maureen avait attaché l'écharpe à une branche. Avait-elle également placé cette rame au fond de la barque à son intention? Il n'était pas certain qu'elle puisse descendre l'ancien chemin des bûcherons dans son état, surtout la dernière portion pentue. Si elle l'avait fait, elle méritait au moins un poème épique à sa gloire. Tout cela parce qu'il avait effectué quelques recherches pour elle sur Internet et trouvé des informations qu'elle aurait sans doute pu dénicher elle-même si elle n'avait pas été malade. Il ne savait pas trop quoi en penser et il n'essayait même pas de comprendre. Il savait juste que la rame était là et qu'il devait l'utiliser, malgré la fatigue, malgré ses mains en sang. Au moins, il savait s'en servir. Bien qu'il soit un garçon de la ville, le Minnesota était l'État aux 10 000 lacs et Luc était allé pêcher avec son grand-père paternel bien des fois. Il s'assit au milieu de la barque et se servit de la rame pour orienter l'avant de l'embarcation vers l'aval. Cela étant fait, il rama jusqu'au centre de la rivière, large d'environ 70 mètres à cet endroit, puis il rentra la rame. Il ôta ses baskets et les posa sur le banc arrière pour les faire sécher. Quelque chose y était imprimé à la peinture noire, à moitié effacée, mais en se penchant, il parvint à déchiffrer « S.S. Pocky ». Cela le fit sourire. Renversé sur les coudes, il leva les yeux vers la folle étendue des étoiles, en essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, qu'il avait vraiment réussi à s'enfuir. Quelque part derrière lui, sur la gauche, retentit le double gémissement d'une sirène électromécanique. Se retournant, il découvrit la lumière éclatante d'un phare qui tremblotait à travers les arbres. Il arriva à la hauteur de la barque, puis la dépassa. Luc ne voyait pas la locomotive, ni le train qu'elle tractait. Il y avait trop d'arbres dans son champ de vision. Mais il entendait le grondement des wagons et les rafales tumultueuses des roues d'acier sur les rails. Détail qui réussit finalement à le convaincre. Il ne s'agissait pas d'un fantasme extrêmement précis qui se déroulait à l'intérieur de son esprit alors qu'il dormait dans son lit à l'Institut. Il y avait là-bas un authentique train qui roulait sans doute vers Denison Riverbend. Et c'était une authentique barque qui le conduisait vers le sud, emportée par ce lent et magnifique courant. C'était d'authentiques étoiles qu'il voyait au-dessus de lui. Évidemment, les sbires de Sixby se lanceraient à sa poursuite, mais je retournerai jamais à l'Institut. Jamais. Il laissa pendre sa main par-dessus bord, écarta ses doigts dans l'eau et regarda 4 petits sillages courir derrière lui dans le noir. Il avait souvent fait ce geste à bord du petit skiff de son grand-père, propulsé par son moteur de temps qui tout sautait. Mais jamais, même à 4 ans, quand tout lui paraissait nouveau et extraordinaire, il n'avait été à ce point submergé d'émotions au spectacle de ces sillons liquides et fugaces. Il réalisa avec la force d'une révélation qu'il fallait avoir connu l'emprisonnement pour apprécier pleinement la liberté. « Je préfère mourir plutôt que de me laisser attraper. » Il comprenait que c'était la vérité et qu'il en arriverait peut-être à cette extrémité, mais il savait également qu'il n'en était pas encore là. Luc Ellis leva ses mains tailladées et sanglantes face à la nuit, à l'air libre, et il se mit à pleurer.